Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Richard Ferrand dans le bureau des juges d'instruction. Le président de l'Assemblée doit s'expliquer sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. L'audition se poursuit ce soir. Nous ferons le point avec Charlotte Piré. Le gouvernement se prépare à un Brexit sans accord le 31 octobre prochain. Les ambassadeurs de l'Union européenne étaient convoqués au Quai d'Orsay aujourd'hui. Le reportage de Louise Baudet. Faible mobilisation des indépendantistes catalans aujourd'hui à Barcelone. 600 000 personnes pour la Diada contre 1 million l'an dernier. Élise Delève était dans le cortège. Touche pas à mon maire. 85 parlementaires de la majorité LREM Modem dénoncent les violences contre les élus. Le député François Jolivet, à l'origine de cet appel, est l'invité de ce journal. Depuis 10h ce matin, Richard Ferrand est au palais de justice de Lille. Le président de l'Assemblée nationale répond à une convocation des juges chargés de l'enquête sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. En 2011, l'organisme alors dirigé par Richard Ferrand avait loué des locaux commerciaux appartenant à sa compagne. Le parquet de Brest avait classé l'affaire en 2017, estimant notamment qu'il y avait prescription pour un éventuel délit de prise illégale d'intérêt. Mais l'association Anticor avait relancé la machine judiciaire en déposant plainte avec constitution de partie civile. Le dossier a été dépaysé à Lille, où trois juges sont chargés de l'instruire. Charlotte Piré, question, que peut-il se passer maintenant pour Richard Ferrand, qui est toujours dans le bureau des magistrats à l'heure où nous parlons?
De l'issue de cette audition se dessinera clairement la suite de cette affaire, non-lieu ou perspective d'un procès. Pour décider, les juges d'instruction vont devoir statuer sur deux points. Le premier, sur l'infraction elle-même. Peut-on parler d'une prise illégale d'intérêt? Pour cela, il faut envisager les mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand a été le directeur général pendant 14 ans, comme un groupe à vocation de service public. C'est l'interprétation qu'en fait l'association Anticor, partie civile, qui estime que parce qu'elles perçoivent des subventions publiques et assument des missions comme l'ouverture de ce centre de soins dont le local est au cœur de l'affaire, les mutuelles de Bretagne sont bien chargés d'une mission de service public. C'est aussi ce qu'avait envisagé le parquet de Brest avant, néanmoins, de classer l'affaire sans suite, car l'autre nœud juridique, c'est la question de la prescription. 3 ans dans le cas de prise illégale d'intérêt. Or, l'allocation de ce local à la compagne de Richard Ferrand remonte à 2011. Sauf qu'il s'agit d'une infraction dissimulée, argumente encore Anticor, qui rappelle que les administrateurs des mutuelles de Bretagne ignoraient la situation et que seul un article du Canard enchaîné avait permis la révélation des faits. Article paru en 2017, qui avait alors conduit à l'ouverture d'une enquête et au départ de Richard Ferrand du gouvernement.
Charlotte Piré, merci. Richard Ferrand va-t-il démissionner s'il est mis en examen? Il y a un an, en succédant à François de Rugy à la présidence de l'Assemblée, il avait eu cette petite phrase « Le Parlement a son indépendance, par conséquent, les parlementaires n'ont pas à être dans la main de l'autorité judiciaire ». Fin de citation. C'est une autre affaire embarrassante pour la Macronie, les soupçons d'emploi fictif au Modem concernant les assistants parlementaires des eurodéputés du parti. Depuis ce matin, le patron du Modem, François Bayrou, et la députée Marielle de Sarnaise sont entendus par la police à Nanterre. Il ne s'agit pas d'une garde à vue, mais d'une audition libre. Hier, Sylvie Goulard, pressentie pour entrer à la Commission européenne, avait été entendue sous le même régime pour la même affaire. Pour l'instant, il n'y a aucune mise en examen dans ce dossier d'emploi présumé fictif au Modem. Pendant ce temps-là, le gouvernement prépare le Brexit, avec ou sans accord entre Londres et l'Union européenne. La diplomatie française a réuni aujourd'hui au Quai d'Orsay les 26 ambassadeurs des autres pays de l'UE. Il s'agit de parer à toute éventualité, c'est-à-dire un possible no deal le 31 octobre. L'enjeu est majeur, notamment à Calais où transitent chaque année 5 millions de camions. Les explications de Louise Baudet.
Des parkings géants pour organiser les files d'attente, 600 douaniers supplémentaires, 200 experts vétérinaires. Et ce message aux ambassadeurs des États membres de l'UE, comme nous, préparez-vous et préparez vos PME au retour des barrières douanières, notamment à Calais, où 5 millions de camions passent chaque année la frontière. Le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt.
80% des marchandises qui traversent la frontière entre le Royaume-Uni et la France ne sont pas des marchandises françaises. Si sur un même véhicule, une partie de la marchandise a fait l'objet d'un dédouanement anticipé, mais que l'autre partie n'a pas fait l'objet de ce dédouanement, c'est bien évidemment tout le véhicule qui est ralenti à l'occasion du passage de la frontière et les efforts des uns deviennent vains du fait de l'absence d'anticipation des autres.
Éviter le chaos technique et envoyer un message politique. La secrétaire d'État aux affaires européennes Amélie de Montchalin prévient, pas question de laisser les Britanniques diviser les Européens.
Nous voyons que les Britanniques essayent par des moyens plus ou moins détournés de signer des accords bilatéraux, des mini-deals avec chacun d'entre nous. C'est totalement contraire à l'esprit dans lequel nous négocions. Est-ce que nous sommes prêts à écouter les propositions des Britanniques? Totalement. Est-ce que les Britanniques nous ont fait des propositions à ce stade sur ce qu'ils souhaiteraient qu'il se passe? Pas vraiment. Comme nous n'avons pas de propositions concrètes sur la table, notre responsabilité, c'est de nous préparer.
Prêt pour un no deal, pas pour un nouveau report inutile. Message martelé en France, pendant qu'en Allemagne, Angela Merkel croit encore à un accord. Les 27 plus ou moins conciliants donc, mais de moins en moins patients face à un brouillard britannique qui n'en finit plus de s'épaissir.
Louise Baudet, merci. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a essuyé aujourd'hui un nouveau revers. La Cour d'appel d'Édimbourg en Écosse a déclaré illégale la suspension du Parlement britannique jusqu'au 14 octobre. Le gouvernement de Boris Johnson a aussitôt fait appel de cette décision devant la Cour suprême de Londres qui tiendra audience sur le sujet mardi prochain. C'est un échec pour les indépendantistes catalans. La traditionnelle Diada n'a rassemblé aujourd'hui que 600 000 personnes à Barcelone. Il s'agit de la plus faible participation à cette mobilisation nationaliste annuelle depuis son lancement en 2012. L'an dernier, 1 million de personnes avaient participé à la Diada. Depuis, les principaux dirigeants indépendantistes sont en prison près de Madrid. Ils connaîtront leur sort judiciaire dans les prochaines semaines. Quant à l'ancien président catalan, Carles Puigdemont, il est en fuite en Belgique. Cet après-midi à Barcelone, les manifestants restaient malgré tout déterminés, comme a pu le constater Élise Delève.
Anna et Antonietta applaudissent. Elles manifestent en soutien aux dirigeants emprisonnés.
Inquiète, nous sommes très inquiètes parce qu'il y aura sûrement un verdict très... Alors qu'ils n'ont rien fait. Imagine qu'on te mette toi ou moi en prison sans que tu n'aies rien fait. À combien d'années en arrière faut-il remonter pour voir ça? C'est un mensonge complet, complet. La seule violence qu'il y a eu, c'est de la part de la police espagnole. Alors à quoi ça sert la liberté d'expression si ce n'est pour ne pas s'exprimer? Je peux penser d'une certaine façon et toi d'une autre. Il ne doit pas y avoir de conflit. Chacun doit pouvoir s'exprimer de la façon dont il veut.
À entendre leur passion pour la cause sécessionniste, difficile de croire que ces deux sœurs n'étaient pas indépendantistes il y a 2 ans. Elles votaient pour des partis traditionnels, mais se disent aujourd'hui déçues, tout comme Perret. Il est dégoûté des politiques, y compris des partis catalans.
Fatigués. Nous sommes fatigués que les politiques ne nous correspondent pas. L'indépendantisme continue de la même manière. Les seuls qui se sont dégonflés, ce sont les politiques. Nous avons des politiques qui ne nous méritent pas, ce sont des nuls. Il y a certains partis qui se sont dégonflés complètement et on ne sait pas à quoi ils jouent.
Comme beaucoup d'indépendantistes croisés cet après-midi, Perret sait que la bataille sera longue. Cela fait 300 ans qu'on lutte pour notre indépendance, dit un manifestant, alors 15 ans de plus ou de moins...
Merci Élise Delève, envoyée spéciale en Catalogne à Barcelone. 2500 personnes encore portées disparues aux Bahamas, plus d'une semaine après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian qui a fait au moins 50 morts. C'est ce qu'annoncent ce soir les services d'urgence de l'archipel. Le nord des Bahamas reste plongé dans un grand chaos et la phase d'urgence n'y est pas terminée. La priorité étant d'évacuer les sinistrés des îles les plus dévastées. Touche pas à mon maire, c'est le titre de l'appel lancé lundi par 85 parlementaires de la majorité LREM Modem, des élus excédés par la violence qui frappe les maires de France, une violence qui selon eux a atteint cet été un niveau insupportable avec la mort du maire de Signes dans le Var, renversé par un individu qui déchargeait des gravats. Invité de ce journal, François Jolivet, député LREM de l'Indre à l'origine de la tribune Touche pas à mon maire, avec sa collègue de l'Aisne Aude Bonneau-Vandorme, bonsoir.
Bonsoir monsieur et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs.
François Jolivet, comment vous expliquez ce regain de violence contre les maires?
Écoutez, je crois que s'exprime une défiance depuis quelques années à l'autorité publique, que les maires sont aujourd'hui les plus près de leurs administrés et qu'ils sont souvent le rempart seul avec leurs équipes, maires adjoints et conseillers municipaux, aux difficultés des territoires. Et les administrés vont vers eux et s'expriment violemment. Et ça, c'est bien insupportable. Je pense que ça doit être des femmes et des hommes qui doivent être protégés parce qu'en fait, derrière la fonction de maire, il y a des hommes et des femmes qui s'engagent pour les autres. Et le maire est le représentant du pouvoir puisqu'en fait, il est là pour appliquer les lois sur un territoire. Et bah, il m'apparaît nécessaire qu'ils soient un jour protégés et mieux qu'ils ne le sont.
Chaque affaire, chaque agression est différente. Est-ce que malgré tout, vous voyez des points communs entre les différentes agressions contre les maires?
Écoutez, récemment, moi qui suis député de l'Inde, j'étais avec un maire qui est élu depuis 1977 et qui a attendu 40 ans pour se faire cracher au visage parce qu'en fait, il avait refusé quelque chose qu'il ne pouvait pas accorder parce que c'était contraire à la loi. Et les gens aujourd'hui sont dans une immédiateté, dans une exigence, dans une défiance permanente à l'autorité publique. Et regardez ce qui est arrivé à ce dramatique accident au maire de Signes. Je pense pas que la personne voulait mettre fin au jour du maire de Signes. Mais en revanche, il était pris sur le fait, il s'enfuyait, il a reculé, il écrase. Ça, c'est insupportable. C'est la même chose pour les permanences qui sont cassées des députés. Normalement, la démocratie, c'est de respecter le temps électoral et de pouvoir se séparer des élus que l'on ne veut pas. Un maire, c'est 6 ans, un député, c'est 5 ans. Et là, on est dans l'impression d'une fureur de tout de suite. On exige, on n'a pas, on se révolte. Et on a perdu, je crois, le temps d'apprentissage de la démocratie dans notre pays.
Est-ce que vous avez des exemples des choses qui sont réclamées par les agresseurs ?
Ben là, c'était un permis de construire qui était refusé dans l'Inde. J'ai d'autres exemples dans l'Inde, puisque moi, j'ai été maire par ailleurs 24 ans. Moi, il m'est arrivé de me faire bousculer et mis à terre par des gens qui souhaitaient s'installer de manière illégale sur un terrain, de faire rempart avec ma voiture et la voiture tirée à la main par ces mêmes personnes. J'ai un collègue maire qui a pu se faire, on va dire, bousculer également pour un projet éolien qui, par ailleurs, avait été accordé, mais c'était pas sur sa commune, en plus. Donc, en fait, les gens trouvent l'autorité publique et puis se vengent. On a l'impression qu'il y a un esprit de vengeance. Et c'est, à mon avis, un vrai mal-être de notre pays. Et je rappelle que le maire est pour moi la pierre angulaire de la démocratie. Il fait certes appliquer la règle, mais il est l'expression du lien sur un territoire. Alors, est-ce qu'il faut voir dans cette évolution de perception le concernant l'arrivée de l'intercommunalité ? C'est vrai qu'on disait que le maire était celui qui conduisait son territoire. Maintenant, on a tendance à dire, dans le jargon un peu techno, qu'il est le référent d'un territoire parce que il est aussi dans des intercommunalités et parfois ses administrés viennent le voir et il dit écoute, je ne peux pas te répondre tout de suite, il faut que j'appelle la communauté de communes ou la communauté d'agglo. Donc quelque part on a éloigné les lieux de décision des citoyens, donc peut-être parce qu'il ne peut moins décider et il est moins pris en considération. C'est tout l'objet d'ailleurs du projet de loi de Jacqueline Gourault et de Sébastien Lecornu, afin d'imaginer un système de subsidiarité, c'est de redonner du pouvoir de décision aux maires sur leur territoire.
François Jolivet, est-ce que vous faites le lien entre cette violence et la crise des Gilets jaunes ?
Écoutez, je crois que les Gilets jaunes, le droit de manifester en France est un droit constitutionnel. L'expression de la violence, exprimer son désaccord par la violence, je pense que ça va bien dans le même sujet, c'est-à-dire une défiance à l'autorité, refaire des tours électoraux dans la rue, le fait d'exiger des choses et de ne pas obtenir et donc de se révolter. Je pense que c'est pas la cause, c'est une forme d'expression et c'est sans doute un aboutissement, parce qu'en fait... Je reconnais qu'on n'avait pas connu ça en France, et on a beaucoup comparé à 68, mais c'est pas le cas. En 68, il y avait une vraie doctrine politique derrière, et là, on a plutôt une addition d'individualité qui exige des choses et qui se fédère d'ailleurs pour des raisons différentes, parce qu'en fait, ils expriment sans doute un mal-être, et puis une exigence immédiate sur des changements immédiats, et le temps de toute façon d'action publique ne colle pas avec l'immédiateté, c'est d'ailleurs une vraie difficulté à expliquer.
François Jolivet, député La République En Marche de l'Indre, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Vers une journée noire dans les transports parisiens vendredi, 7 syndicats de la RATP appellent à la grève contre la réforme des retraites qui remettrait en cause leur régime spécial. Selon les prévisions de trafic publiées aujourd'hui, 10 lignes de métro seront carrément fermées vendredi et les autres fonctionneront au ralenti, de même que les bus et les RER. Il faut remonter à 2007 pour trouver une telle mobilisation dans les transports parisiens. Il s'agissait à l'époque d'un mouvement destiné à dénoncer la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Le temps demain sera contrasté, le soleil revient sur la moitié sud, mais le ciel sera plus nuageux au nord. Quelques gouttes possibles vers les Ardennes et le Grand Est, température minimale de 3 à 15 degrés du centre au sud du pays. Les maximales iront de 19 à 30 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.